Bienvenue dans l'émission Secrets de fabrique sur Art District avec Julie Chaise-Martin. L'émission où l'on parle technique, couleurs, composition, effets et astuces des artistes. En partenariat avec Lefranc Bourgeois. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un produit historique dont la qualité a séduit de nombreux peintres célèbres. Qu'est-ce que les huiles Lefranc et Bourgeois? De quoi sont-elles faites? Quels artistes les ont utilisées? Quels artistes les ont aimées? Pour comprendre ce savoir-faire, je vous emmène faire un petit tour au cœur de l'usine Lefranc et Bourgeois qui se trouve au Mans. Immersion sonore dans l'histoire passée et actuelle de ces huiles, leurs couleurs, leurs odeurs. Aujourd'hui, la marque n'a plus besoin de faire sa réputation, mais elle cherche toujours à innover et à se réinventer. Nous sommes donc allés à la rencontre de plusieurs acteurs qui participent aujourd'hui au succès de la marque. Et premier changement, Lefranc et Bourgeois se fait aujourd'hui appeler Lefranc Bourgeois, tout simplement. Un esprit de création au plus près des artistes pour qu'ils trouvent l'inspiration et libèrent leurs émotions.
Liste de couleurs de Pablo Picasso. Blanc d'argent, blanc permanent, bleu de céruléum, bleu de cobalt, bleu de Prusse, jaune de cadmium citron, clair, jaune de strontiane, laque de garance bitume, laque bleue et brune, laque violette bleue, noir d'ivoire, ocre jaune et rouge, outremer clair et foncé, terre d'ombre naturelle et brûlée, rouge persan, terre de sienne naturelle et brûlée, terre verte naturelle, vermillon clair, vert de cadmium clair et foncé, vert émeraude, vert japonais clair et foncé, vert véronèse et violet de cobalt clair et foncé.
Faisons tout d'abord un petit peu d'histoire. Paris, 1720. Rue du Four Saint-Germain. Premier étage d'une maison. Ici vit le jeune peintre Chardin. Bientôt, il va rentrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, ce qui va le rendre célèbre. Au rez-de-chaussée de cette même maison se trouve un commerce de pigments et d'épices tenu par Charles Laclé, qui devient le fournisseur officiel du château de Versailles pour tout ce qui concerne la couleur. Son commerce réputé s'appelle « À la clé d'argent ». En 1836, ses successeurs sont deux frères, Alphonse et Jules Lefranc, suivis ensuite par Alexandre Lefranc, qui prend la tête de l'entreprise en 1859 et qui n'est autre que l'arrière-grand-père de Marcel Lehmann Lefranc, héritier actuel de la célèbre marque Beaux-Arts, Lefranc Bourgeois. Marcel Lehmann Lefranc nous raconte justement un peu de cette histoire familiale.
Qu'est-ce qu'Alexandre Lefranc apporte réellement à la marque Lefranc? Quelle est son innovation?
Tout d'abord, il quitte l'intérieur de Paris, où les usines étaient encore à l'époque dans le quartier de Grenelle, et il fait construire une usine en ce qui était la récente banlieue, qui était ici les Moulineaux, ce qui permettait d'avoir déjà une implantation industrielle beaucoup plus importante. D'autre part, il perfectionne le tube en inventant un bouchon hexagonal qui permet de le visser et de le dévisser plus aisément.
Donc c'est ce qu'on a appelé le bouchon à pas de vis.
C'est ça.
Et il en dépose le brevet.
C'est ça.
Donc les impressionnistes se fournissent donc en partie chez Monsieur Lefranc pour avoir cet attirail de peinture pratique.
Voilà, c'est ça. Des chevalets pliables, des boîtes en bois pour mettre la couleur, etc. Des palettes pliantes et tout ce genre de matériel qui facilite le transport du matériel sur place. Alexandre Lefranc, qui était en contact avec Millet, lui a fait faire des essais de couleurs pour voir comment vraiment les choses allaient évoluer. Il y a d'ailleurs un portrait d'Alexandre Lefranc par Millet qui est conservé au musée d'Orsay.
Extrait de la lettre de Jean-François Millet adressée à Alexandre Lefranc, directeur de Lefranc, en septembre 1874. Barbizon, 28 septembre. Monsieur Alexandre Lefranc, je vous remercie de l'amabilité de m'avoir envoyé ce jaune de Naples et je me rappelais qu'il était très colorant, d'une matière très adhérente et couvrant bien. Enfin, ne ressemblant en rien au jaune de Naples de toilette comme j'en employais depuis tant d'années.
Alors, il faut préciser que Monsieur Lefranc, il a un concurrent qui s'appelle Monsieur Bourgeois,
oui.
Justement.
Oui.
Qu'est-ce que Monsieur Bourgeois fait par rapport à Monsieur Lefranc ? Il se concurrence sur justement les couleurs, le matériel.
Non, ça a été plutôt, c'est-à-dire que la société Bourgeois, alors beaucoup plus tard, dans les années 30, a mis au point une gouache à séchage rapide qui était vendue en pot de verre et qui dans des emballages plus grands. C'est notamment avec ce produit-là qui s'appelle la Flash que Dufy a réalisé la grande fresque de la Fée Électricité pour le pavillon de l'électricité de l'exposition universelle de 37.
Lettre de Raoul Dufy à Monsieur Bourgeois évoquant la réalisation de La Fée Électricité, toujours exposée au Musée d'Art Moderne à Paris. Paris, le 5 juin 1937. Monsieur Bourgeois, je tiens à vous remercier des produits que vous m'avez fournis pour l'exécution de ma décoration du Palais de la Lumière. C'est grâce à vos excellentes couleurs que j'ai pu réaliser le plus grand tableau du monde. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Raoul Dufy.
Les produits synthétiques apparaissent aussi à cette époque.
La chimie fait aussi beaucoup de progrès vers la fin du 19e et le tout début du 20e siècle. Donc elle met à la disposition toute une gamme de pigments qui n'existaient pas précédemment.
Commande de Cézanne à son marchand, Fontainebleau, le 14 juillet 1900. Monsieur, j'ai reçu vos divers envois et viens vous prier de m'expédier 5 laques brûlées de la maison Charbonnel, 5 verres véronaises ou similaires de chez Bourgeois et 8 cobalt de la même maison, même numéro. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Paul Cézanne.
Lefranc et Bourgeois naît et l'usine s'installe au Mans. Donc elle y est toujours aujourd'hui. Et en 1988, on a l'acquisition de Charbonnel, qui est une référence dans le domaine des impressions d'art, notamment des encres.
Des encres, oui. Des encres pour la gravure.
Et vous, en tant qu'arrière-petit-fils de celui, Alexandre Lefranc, qui a vraiment fait de cette marque un succès européen puis international, vous avez, j'imagine, depuis toujours été baigné dans cet univers de couleurs et d'art. Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, des émotions quand vous avez visité, pour la première fois, peut-être petit garçon ou jeune homme, les usines qui fabriquent les couleurs ? Comment ça s'est passé ?
J'avais 10 ans au moment de la guerre. De toute façon, pendant la guerre, les usines avaient beaucoup de difficultés parce qu'il y avait l'approvisionnement de matières premières était difficile. Il y a eu des bombes qui sont tombées sur l'usine Lefranc. Vous dire qu'une bombe qui tombe dans une usine de produits chimiques, ça veut dire immédiatement incendie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand nous avons voulu vraiment remettre cette usine au point, parce qu'elle avait été retapée un peu de briques et de brocs, parce qu'au lendemain de la guerre, on n'avait pas non plus les produits pour reconstruire les choses vraiment bien. Quand on a voulu vraiment reconstruire cette usine, c'est à ce moment-là que l'administration nous a dit que non. Il fallait, c'était la grande époque de la décentralisation, qu'il fallait donc se partir pour la province, et c'est la raison pour laquelle nous avons été nous établir au Mans.
Et justement, prenons nous aussi la direction du Mans pour visiter l'usine et rencontrer les chefs d'atelier et de laboratoire. Là-bas, l'espace est grand, les broyeuses de pigments se font entendre, les couleurs sont aussi belles que des gourmandises. Et les huiles Le Franc-Bourgeois gardent toujours les secrets de leur fabrication au cœur du laboratoire de recherche. C'est un petit monde bien à part que l'on a la chance de pénétrer pour en découvrir les coulisses bien colorées.
Bonjour, je m'appelle Vincent Ledru, je suis responsable recherche-développement chez Le Franc-Bourgeois. Nous sommes une équipe de 6 personnes. Notre rôle est de faire de la recherche et du développement sur des nouvelles gammes de peintures pour la marque Le Franc-Bourgeois, que ce soit dans l'acrylique, l'huile et aussi l'aquarelle. Ce sont des gammes existantes qui doivent souvent être retravaillées pour se mettre au goût du jour avec en utilisant les nouvelles innovations que nous propose le marché et notamment nos fournisseurs de pigments.
Vous avez justement des nouvelles huiles à proposer.
Alors oui, on est sur un marché quand même très traditionnel. Le gros du travail se situe sur les pigments où là il y a quand même beaucoup d'innovations qui ne cessent d'arriver sur le marché. Et nous, notre rôle, c'est de tester ces nouveaux pigments et les voir s'ils ont un intérêt pour le domaine du beaux-arts.
Des exemples, peut-être ?
Les exemples, c'est... dans les années 80, c'était plutôt des pigments organiques, notamment les DPP, dicétopyrolopyrone. Et ça, c'est des pigments qui ont été utilisés dans les années 90 et 2000. Depuis une dizaine d'années, on a des nouveaux pigments de la chimie minérale, donc surtout des complexes métalliques. On arrive à avoir des teintes qui se rapprochent des pigments historiques à base de cadmium. Et ça, c'est tout nouveau.
Extrait d'une correspondance entre Henri Matisse et les laboratoires Linel, fournisseurs des grands maîtres. 25 mars 1946. Cher monsieur, je viens d'avoir plusieurs séances d'entretien devant un travail important de reproduction de couleurs à la gouache Linel. Je sais que vous avez bien voulu vous intéresser particulièrement à cette chose et que malgré toute votre bonne volonté, on a pu obtenir une couleur absolument indispensable pour mener à bien un très gros travail. Il s'agit du violet fixe. C'est une sorte de couleur clé absolument nécessaire pour réunir les bleus aux rouges.
Quand vous dites on arrive à avoir des teintes qui se rapprochent des pigments historiques, ça signifie que les pigments d'autrefois étaient des teintes de meilleure qualité qu'aujourd'hui ?
Alors, c'est des pigments qu'on n'a jamais enlevés de la gamme parce qu'on n'avait jamais retrouvé des équivalents. Il y a eu quelques essais à partir de pigments organiques pour faire des imitations au cadmium, mais qui ont été vraiment de pâles imitations. D'ailleurs, on les appelait cadmium imitation. Et sur le marché, ça n'a jamais été vraiment un succès parce qu'on ne retrouvait pas du tout les qualités des pigments au cadmium. Les qualités des pigments au cadmium sont essentiellement l'opacité, une forte densité qui est appréciée par les utilisateurs, par les peintres, un éclat de couleur, et ça, on n'avait jamais trouvé d'équivalent. En fait, c'est pour ça que les cadmiums étaient maintenus dans les quarts de nuance. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour refaire ces couleurs aussi profondes, aussi intenses, aussi opaques. On a beaucoup de retours d'utilisateurs qui nous ont dit effectivement, on ne voit pas la différence.
Donc ça signifie que le cadmium, historiquement, était vraiment une marque de fabrique en fait, des huiles Le Franc, et qu'aujourd'hui, vous arrivez avec, donc en 2017, avec les innovations, à avoir encore cette spécificité-là, donc entre tradition finalement, le franc, et modernité.
Oui, alors le cadmium, ce sont des couleurs qui sont utilisées partout par beaucoup de marques dans le Beaux-Arts. Les nouveaux substituts au cadmium qu'on va proposer, là, sont effectivement propres à le franc bourgeois.
Donc là, on parle évidemment avec vous de recherche et développement, et on est en plein finalement... dans les secrets de fabrication de Lefranc et Bourgeois. Il y a encore des secrets de fabrication.
Il y a des secrets de fabrication. On est assez transparent par rapport aux artistes. On leur fait tester les produits. Néanmoins, sur ce point, c'est une des premières fois où on ne donne pas notre recette pigmentaire pour ces nouvelles couleurs. Il faut savoir que ce travail a démarré en 2012. La gamme sort aujourd'hui en 2017. On a 5 ans de travail laboratoire. En quelque sorte, ce sont des pigments hybrides, mais on n'en dira pas plus.
Alors, des pigments hybrides, et on a toutes les gammes de couleurs avec ces pigments ?
Alors, on a toutes les gammes de couleurs du cadmium, c'est-à-dire ça va du jaune citron, jaune, disons moyen, jaune orangé, ça passe par le orange, et ça va ensuite jusqu'au rouge foncé. Il n'existe pas de cadmium dans les teintes violettes et bleues. Le vert, c'est-à-dire qu'on mélange... Un pigment jaune avec une partie de bleu. On a retravaillé la carte de nuance, on a introduit des nouvelles couleurs, puisque la dernière fois que la gamme avait été retravaillée, c'était en 2002. L'ancienne gamme proposait un seul jaune de Naples. Aujourd'hui, on a souhaité proposer 3 jaunes de Naples de compositions différentes. Des jaunes de Naples, c'était des couleurs traditionnelles, naturelles, et il n'existait pas un pigment unique. Donc on a souhaité faire un panel de jaune de Naples qui va du plus clair au plus foncé. C'est des compositions originales, c'est des mélanges de pigments, mais nous souhaitions proposer des teintes vraiment proches de ce qui se faisait auparavant. Et on a aussi introduit des couleurs vraiment uniques pour la marque Lefranc Bourgeois, qui est le noir de Périlène, le Caput Mortum. C'est des couleurs qui n'existaient pas vraiment du tout dans les gammes. Ce ne sont pas des évolutions de couleurs, c'est vraiment des nouvelles créations.
Donc là, c'est des créations vraiment que vous avez vous-même formulées en laboratoire.
Formulées en laboratoire en utilisant vraiment des color index, donc des pigments nouveaux qu'on n'avait pas à la gamme auparavant.
C'est-à-dire que la gamme... comporte aujourd'hui combien de pigments ?
Sur les 120 couleurs aujourd'hui à la gamme, 61 couleurs sont monopigmentaires, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent qu'un seul pigment, qu'un seul color index. Auparavant, nous avions, sur le même nombre de couleurs, nous avions 51 couleurs monopigmentaires.
On vient de parler des huiles, des couleurs, des pigments. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la texture qui, je crois, a été améliorée également ?
Non pas que la texture de la peinture auparavant avait un quelconque problème. Chez Lefranc Bourgeois, l'huile extra fine avait une texture toujours un petit peu souple. C'était une marque de fabrique, c'était... historique. Des études sur le marché auprès des consommateurs ont montré qu'une texture un peu plus ferme était de plus en plus appréciée. Pour être sûr de ces études, on a réalisé des tests en aveugle, donc des blind tests. Pour raffermir une peinture, on a soit l'option de mettre des agents épaississants, ou soit retravailler sur l'équilibre de l'huile et du pigment. C'est ce qu'on a préféré faire. Donc ça a été un travail assez long à faire sur toutes les couleurs, même les couleurs qui n'ont pas changé dans la carte de nuance, qu'on a maintenue, qui existait dans l'ancienne gamme. On l'a retravaillée au niveau de la texture pour qu'elle soit légèrement raffermie.
Correspondance entre Jean Dubuffet et Marc Avel, chimiste des laboratoires Lefranc et Bourgeois, Paris, le 9 juin 1966. Cher monsieur, j'étais particulièrement heureux de faire votre connaissance et je suis très reconnaissant de votre visite et de ce long entretien que vous avez bien voulu m'accorder, pour moi si profitable. « et j'éprouve un sentiment de reconnaissance et d'admiration pour vos recherches et travaux qui vous ont conduit à la mise au point et à la fabrication de ces couleurs flash qui me sont depuis 2 ou 3 ans de si grande aide. Veuillez bien croire, cher monsieur, à mes sentiments les plus cordialement dévoués. Jean Dubuffet.
Donc bonjour, je m'appelle Grégory Brossard, donc je suis responsable de production chez Lefranc Bourgeois au Mans. Je suis arrivé dans la société il y a 20 ans en tant que technicien R&D en remplacement. Et donc on m'a proposé un poste de chef d'équipe à l'atelier fabrication des pâtes, donc fabrication de l'huile entre autres, hein, et poste que j'ai occupé pendant 12 ans. Et ensuite, je suis passé responsable d'atelier et donc depuis 1 an et demi, responsable de production, c'est-à-dire que j'ai, en plus de l'atelier fabrication des pâtes, pris l'atelier conditionnement et le magasin semi-fini sous ma responsabilité. Donc ça représente approximativement 110 personnes qui sont réparties sur ces 3 secteurs et dont 35 personnes pour la fabrication des pâtes uniquement et au sein duquel nous avons une unité approximativement qui emploie entre 8 personnes et 12 personnes selon l'année pour la fabrication de l'huile Lefranc.
Alors concrètement, justement, quels sont les types de métiers ici ?
Alors, on a coutume de dire qu'on arrive donc à l'atelier fabrication, déjà des métiers, c'est des métiers qui sont propres à l'atelier, ça n'existe pas, il n'y a pas d'école.
On apprend tout ici, c'est une sorte de savoir-faire.
Voilà, c'est exactement. Donc il y a des profils un petit peu particuliers, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on dit toujours qu'on fait un petit peu de la cuisine, donc des profils justement de cuisiniers, souvent c'est des personnes qui où ça se passe plutôt bien. On met toujours les gens dans le premier secteur, c'est ce qu'on appelle la pesée. Donc la pesée, c'est une préparation. En gros, on a une recette de cuisine et on pèse toutes les matières. Donc déjà, il faut avoir une dextérité et une propreté plutôt bonne parce que les pigments, c'est volatile, ça tâche. Donc on voit tout de suite si la personne travaille bien ou pas bien. Derrière, souvent, on les met ce qu'on appelle donc à l'empâtage. Donc là, l'empâtage, c'est la première étape de la fabrication d'une huile. Donc c'est ici qu'on met en solution toutes les matières premières avec différentes huiles de base qui peut être de l'huile de lin, l'huile de yette, l'huile de soja, etc., cartame et que sais-je. Donc on met donc tous les ingrédients selon une certaine procédure, selon les familles de produits, que ce soit une encre ou une huile. Et ensuite, on essaye la pâte sur ce qu'on appelle une broyeuse nutricylindre, une bulaire. Et c'est à ce moment-là que l'huile prend toute sa valeur ajoutée où on développe la couleur. Donc développer la couleur, c'est quoi ? Il faut imaginer le pigment, je dis toujours ça, comme des cartons entassés, et le fait de broyer l'huile, et ben les cartons entassés, on les étale au sol, et vu du ciel, on les voit beaucoup mieux. Donc on met aussi une certaine finesse au niveau des grains que la pâte peut avoir. Donc on a plusieurs critères à suivre, que ce soit la nuance, la viscosité, l'épaisseur. On permet à l'huile d'obtenir sa qualité finale.
Alors si vous deviez justement décrire les caractéristiques d'une huile Lefranc Bourgeois par rapport à une autre ?
Une huile Lefranc Bourgeois. Alors je dirais que c'est une huile souple, avec des couleurs vives, très vives, une finesse d'à peu près approximativement 10 microns. 10 microns, c'est ce qu'il nous faudrait pour une huile. Il y a quelques exceptions selon les pigments naturels qui sont beaucoup plus durs à broyer.
3 étapes, donc la pesée, l'empâtage et le broyage, qui effectivement font partie d'un savoir-faire. C'est un processus spécifique donc qui est développé, qui est réalisé ici et qui permet aussi de donner à la matière toute sa caractéristique en fait.
Oui, c'est-à-dire que, comme je vous disais juste avant, le métier n'existe pas ailleurs, donc on s'approprie vraiment cette façon de faire. On a déjà aujourd'hui, ça paraît simple quand on passe dans l'atelier parce que les machines existent, mais il a fallu définir ces machines qui soient capables de donner à cette huile l'aspect final qui est là. Ça fait quand même presque 3 siècles, donc c'est qu'on fait quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Et aujourd'hui, c'est surtout, je dirais, aussi par les personnes qui la fabriquent. Nous, l'étape de fabrication se fait par des gens qui aiment leur travail, qui le font avec attention.
Est-ce que les artistes viennent parfois ici dans l'usine, dans l'atelier, pour voir comment les huiles sont fabriquées.
On en a certains qui passent ou qui sont passés. Aujourd'hui, il y a un partenariat qui a été passé avec un artiste sur le site. C'est toujours des super rencontres parce que bon, bah voilà, c'est le milieu artistique, c'est pas un milieu que nous on côtoie. Et là, c'est l'industrie et je pense que c'est pas mieux que les artistes côtoient.
Alors, quand on parle d'atelier de fabrication, de pigments, d'huile framboisien, on imagine aussi quand même des secrets de fabrication, puisqu'il y a aussi ce savoir-faire. Vous allez ensuite au laboratoire qui est à côté. Comment ça se passe, cette collaboration? L'huile est validée par...
Alors, dans un souci de prise de compétence de nos opérateurs, depuis maintenant 3 ou 4 ans, on a envoyé tout l'atelier en formation à l'ITEC de Lyon, donc une école basée sur la connaissance de la couleur, pour faire... un dégrossi, si je peux me permettre. Et donc, suite à ça, on a senti un groupe de 7 ou 8 personnes qui avaient envie d'aller plus loin. Et donc, on a amené 4 opérateurs aujourd'hui qui contrôlent eux-mêmes les pâtes et qui contrôlent leurs collègues ainsi que leur travail et valident la production elle-même. Donc aujourd'hui, cette connaissance de la couleur, qui est bien sûr toujours détenue par le laboratoire, étant donné qu'ils recherchent toujours à améliorer la gamme, a été translatée au sein de la production. Donc de façon à pouvoir perdurer aussi la connaissance de l'huile. On ne peut pas mettre uniquement la connaissance de la couleur sur seulement un ou deux individus. Pour faire un médium d'empattement, il faut qu'on fabrique en amont un autre produit que l'on vend aussi, qui est le médium sans plomb, qui est devenu médium sans plomb parce qu'à une époque, on avait du médium avec plomb, qu'on ne peut plus se permettre de mettre de plomb. Donc c'est vraiment un travail de recherche. Et pour fabriquer ces produits, il s'agit vraiment de matières premières, mais vraiment, vraiment très spécifiques, donc qui évoluent avec le temps et qui un jour disparaissent. Donc il faut toujours se réadapter. Et c'est très très compliqué, c'est des process avec des périodes de montée en température, d'ébullition, de refroidissement qui sont très soumis aux aléas du temps, plus du climat, c'est-à-dire que si vous le faites en été ça marche, si vous le faites en hiver ça marche plus. Il faut un temps de repos pour fabriquer certains produits tels que le médium flamand. Et il nous faut aujourd'hui entre un mois et un mois et demi de repos pour pouvoir l'obtenir. Une fois qu'on l'a obtenu, il faut qu'on l'utilise pour faire le médium d'empattement. Et selon les périodes, ça va être différent pour la fabrication.
Alors, ça reste en tout cas des savoir-faire que vous essayez, enfin que vous devez faire perdurer ici au sein de l'atelier de fabrication.
Tout à fait.
Vous-même, pour donner un exemple, pourquoi vous avez choisi de travailler ici?
Alors moi, pourquoi j'ai choisi de travailler ici? Pas pour le côté artistique, parce que je ne le suis pas du tout. Donc pourquoi? Parce que je cherchais du travail, je suis chimiste de formation avec une spécialité en chimie industrielle. Le secteur d'activité de Lefranc-Bourgeois me convenait tout à fait. Après, géographiquement, j'avais un petit pied d'attache dans le coin, donc je suis rentré chez Lefranc-Bourgeois. Enfin, le métier de laboratoire ne m'a pas convaincu, donc je me suis dit, heureusement j'ai fait une spécialité industrielle. Et quand on m'a proposé l'ouverture de poste en tant qu'animateur d'équipe, manager des gens, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, ça m'a bien plu. Et puis le travail en lui-même, je veux dire, faut traverser l'atelier un jour où vous avez un rouge lefranc, un bleu de cobalt sur une broyeuse qui descend sur un tablier. Je défie quiconque de ne pas avoir envie de mettre les mains dedans, quoi. C'est ça, quand vous l'avez, le boulot aujourd'hui, quand vous êtes contrôlé la nuance ou quand même vous fabriquez une huile au sein de l'atelier, vous pouvez venir travailler 20 jours consécutifs et vous ferez peut-être jamais 20 fois la même couleur. Donc ça, c'est quelque chose, un violet de cobalt fixe, quand vous le voyez une fois, vous lui dites au revoir quand il part, parce qu'il ne reviendra pas avant 2 ans. Là, vous faites un vert émeraude, quand vous avez un batch de... parce que l'artiste achète un tube de 40 ml, nous on fabrique un batch de 100 ou 140 litres, quand vous dites à l'opérateur qu'il en a pour presque 10 000 euros dans sa bassine, ça fait réfléchir, quoi. Donc c'est un produit noble, c'est ça. C'est ce qu'on aime à dire lors des visites. On travaille avec, on fabrique pas, on travaille avec un produit noble.
C'est devenu une passion.
Tout à fait. Mais je ne suis pas artiste pour autant.
Témoignage de Fujita, peintre paysagiste de l'école de Barbizon, le 8 avril 1894. J'emploie les couleurs lefranc car ce sont les meilleures pour moi. Fujita. Bonjour, je suis Pierre Ball, je suis responsable des relations avec les artistes et les écoles d'art. La peinture à l'huile a besoin d'être redécouverte, reconsidérée auprès des jeunes, auprès des artistes émergents, même si c'est une pratique qui est toujours présente dans l'art contemporain, mais il faut vraiment, on a envie vraiment de la développer. C'est pour ça qu'on va continuer, comme nous le faisons depuis plusieurs années, à présenter cette technique-là et la faire apprécier dans les écoles d'art, auprès d'étudiants dès les premières années. Car c'est une technique qui a vraiment tout plein d'avantages et plein de particularités, son séchage qui est lent, qui permet de s'exprimer vraiment tout en profondeur et tout en oubliant cette notion de temps, de séchage qui est rapide dans les autres techniques à l'eau et qui ne l'est pas du tout à la peinture à l'huile. Voilà, donc c'est un médium d'expression, mais qui permet également, si on veut aller vite, d'aller vite, puisque il y a pour ça des médiums, des additifs qui permettent d'accélérer les prises de pâte et donc de peindre, même faire des performances, même peindre sur des grands formats dans cette technique-là.
Bonjour Rature Escaro, vous êtes artiste peintre, deux frères, vous travaillez à quatre mains souvent ensemble, issu du graffiti, donc plutôt de la peinture murale, on peut dire ça comme ça.
Exactement, oui.
Aujourd'hui, par contre, c'est un défi un peu différent, faire une peinture sur une toile qui est moins grande qu'un mur, à deux. Comment ça se passe ?
Effectivement, c'est plus petit, donc c'est plus petit qu'un mur. Donc on se marche un petit peu plus sur les pieds, mais on est habitué à travailler ensemble, donc on a des réflexes, chacun trouve sa place facilement. Notre outil de prédilection, c'est la bombe. Ensuite, on est passé rapidement à l'acrylique sur mur, parce qu'on trouve la touche plus intéressante, la touche du pinceau plus intéressante. Et ensuite, on est passé à l'huile sur toile.
Alors, l'huile uniquement sur toile, du coup ?
Ouais, on part uniquement à l'huile sur toile. En fait, ce qu'on a trouvé intéressant avec l'huile, c'est qu'on retrouvait une fluidité qui était proche de celle du spray, de la bombe. Les huiles de Franc-Bourgeois, spécialement.
Les rouges sans cadmium, par exemple, des choses comme ça. Ça, on ne connaissait pas. C'est un bon produit, c'est très intéressant de travailler avec des nouveaux produits. Ça fait toujours plaisir.
Historiquement, la peinture à l'huile, le franc, a été utilisé donc, par des grands artistes. Il y a eu des collaborations importantes qui ont fait d'ailleurs évoluer la maison Le Franc.
Et le Franc-Bourgeois, en particulier, a toujours été proche des artistes pour comprendre leurs besoins, les écouter, et c'est ainsi que sont nées beaucoup de collaborations avec des grands artistes, mais aussi des artistes techniciens avec qui aujourd'hui nous collaborons toujours. Donc des exemples du passé, nous avons en l'occurrence Raoul Dufy, qui à l'époque voulait réaliser le plus grand tableau du monde. Donc nous sommes en 1937, et l'acrylique n'existait pas à l'époque, il n'existait que les techniques à l'eau, la gouache, l'aquarelle, et la peinture à l'huile séchait trop lentement. Or, c'était le médium du peintre, et il a demandé ainsi à Bourgeois, au laboratoire Bourgeois, de réfléchir à comment faire sécher la peinture à l'huile plus vite pour qu'il puisse réaliser ce tableau. Cette œuvre était constituée tout de même de 250 panneaux de contreplaqué de 1,50 m par 1 m de taille. Donc, une œuvre monumentale, et la peinture à l'huile aurait mis des mois de séchage avant que l'artiste puisse réaliser des deuxièmes couches et des troisièmes couches. Donc c'est ainsi que Bourgeois a mis au point un médium de type émulsion, le premier du genre, associant de la colle de peau de lapin, de la résine d'amar, tout ça monté en mayonnaise avec de l'eau. Alors étonnant de pouvoir ainsi mélanger de l'eau et de l'huile, on a mis au point un premier médium de ce genre qui permettra donc à l'eau de s'évaporer et en créant des petits cratères, des petits conduits où l'air pouvait ainsi s'installer et venir faire sécher, cicativer à cœur la peinture. Voyez-vous, donc c'est un procédé qui aujourd'hui existe toujours. Ces médiums d'émulsion existent toujours pour la peinture à l'huile. Il s'agit du médium d'empattement, par exemple, pour créer des épaisseurs à séchage rapide.
Et on a aussi des médiums flamands, je crois. C'est quoi ça exactement ?
Alors, les autres médiums qui sont présents, il y en a pléthore. Il faut simplement après se trouver, je dirais, le médicament qui correspond un petit peu à son besoin d'expression. Donc, il y a le médium flamand qui permet de peindre à la manière de cette école où les peintures étaient très brillantes, très laquées, où les transparences étaient très présentes. Ça s'appelle des glacis en peinture à l'huile. Donc, on superpose des couches de couleurs et on arrive à créer créer des effets optiques de profondeur et de réalisme. Il y a également le médium vénitien, qui est un médium à base de cire, et qui permettait aussi, à l'instar de cette école d'Italie, de peindre en grand format et de peindre à la touche, de peindre en fait dans des exécutions larges où le geste est important, des peintures monocouches à la prima, comme on disait, et très spontané finalement, un peu à la manière des impressionnistes également, où les couleurs se fondaient les unes dans les autres par juxtaposition, des effets optiques se formaient. Donc le médium vénitien permet aussi ce genre d'effet d'écriture.
Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, il faut dire aux jeunes de ne pas avoir peur de la peinture à l'huile, parce qu'effectivement, on est dans une société où tout va vite. Peut-être que l'acrylique, entre guillemets, c'est plus facile, parce que ça va sécher plus vite. On a des grands artistes, par exemple, comme Pierre Soulages, qui a utilisé la peinture à l'huile et qui maintenant utilise l'acrylique. Est-ce qu'il faut dire que voilà, les nouvelles peintures à l'huile, finalement, il y a énormément d'avantages à les utiliser et qu'elles vont aussi sécher plus rapidement qu'il y a 100 ans, par exemple, ou est-ce qu'il y a des progrès là-dessus, sur le séchage notamment ?
Le progrès vient en fait des composants que l'on utilise pour mélanger la peinture à l'huile à de la résine. Les résines sont présentes dans les médiums et ce sont elles qui vont pouvoir bonifier la peinture dans le temps, augmenter la prise de séchage instantanément. Donc, mais de toute façon, chaque technique correspond à un tempérament d'artiste aussi. Il ne faut pas jeter la pierre ou dénigrer les techniques à l'eau. On a besoin des fois d'une expression rapide, on utilise des techniques acryliques. Ça n'empêche pas de pouvoir peindre à l'huile même sur de l'acrylique et de mixer ainsi deux techniques majeures et de pouvoir ainsi satisfaire des besoins de rapidité au départ et ensuite de précision et de temps pour la finition. Donc la peinture à l'huile correspond à ce type de d'écriture tout en finesse. On a besoin de prendre le temps et de corriger si nécessaire, de reprendre les pattes, de travailler sur le tableau dans le frais très longtemps. Si on veut aller plus vite, on peut augmenter le séchage avec les médiums.
Je m'appelle Enzo Serta.
Justement, tu es étudiant ici, on est à l'école des Beaux-Arts à Paris. Tu as choisi de peindre quoi ?
Là, on a des techniciens, on a des gens qui nous présentent des outils, des matériaux anciens, des matériaux récents. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment de toucher et d'essayer.
Tu as choisi lesquels ?
Alors, j'ai commencé par les matériaux que je connaissais, les couleurs que je connaissais. Et très vite, j'étais face à l'incapacité de peindre comme d'habitude. Et j'en ai découvert des nouveaux médiums, des nouveaux produits qui permettaient de sécher plus vite. Là, on a par exemple présenté une térébenthine sans odeur qui marche vraiment bien. Un médium de Venise, par exemple, qui est un produit qui est assez miraculeux. Je connaissais pas du tout. Et voilà, des objets comme ça, des outils qu'on m'a mis dans les mains.
En fait, on a une hiérarchisation des médiums qu'on a complètement revue avec cette nouvelle gamme, le Franc-Bourgeois, et on propose vraiment correspondent à peu près à tous les besoins d'artistes, tant en termes esthétiques qu'en termes de rapidité, la notion de temps, de séchage, qu'en termes de brillance, de matité, de recherche d'épaisseur, de fluidité, de recherche d'opacité ou de transparence. Vraiment, on est dans un univers où la matrice des effets est totale, est très très riche, très dense, et on peut jouer sur tous les axes que l'on veut sur ce plan-là.
Caroline Fand, artiste peintre, est-ce que tu peux nous expliquer le rapport que tu as avec la peinture à l'huile ?
Alors, moi, pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai l'habitude normalement de peindre à l'acrylique. Et là, je redécouvre l'huile et c'est un vrai plaisir. Et j'avais l'image d'une huile qui mettait du temps à sécher, qui sentait mauvais. Et là, avec les produits de la gamme Le Franc-Bourgeois, c'est vraiment une redécouverte. Je réapprends à travailler à l'huile et je la redécouvre et c'est un vrai plaisir.
Alors, quelques exemples peut-être, justement, parmi ces huiles.
Alors, par exemple, on a l'image parfois de l'huile qui met du temps à sécher. Là, il y a des médiums chez Le Franc-Bourgeois, qui est le médium alkyde notamment, qui permet à la peinture de sécher beaucoup plus vite. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est une astuce super et ça permet de travailler justement l'huile un petit peu différemment. Picasso disait un tableau ne vit qu'à travers celui qui le regarde et je crois que c'est vrai, c'est de l'émotion et c'est du partage. Alors non, j'aime toutes les couleurs. Par contre, ce que j'ai aimé là dans la gamme Le Franc-Bourgeois, c'est notamment les lacs. Et j'ai aussi un deuxième petit coup de cœur pour le médium d'empattement, où là, c'était très agréable pour moi de travailler la matière avec le couteau. Et les couleurs et les lacs, c'était très, très intéressant parce qu'il y a une vraie brillance et puis on peut travailler les glacis, etc. Mais après, dire qu'il y a une couleur que je préfère travailler, c'est faux, je les aime toutes.
Et vous allez dans les écoles d'art, vous allez rencontrer les jeunes artistes.
Alors nous faisons des workshops avec des artistes de notre équipe, des artistes qui viennent en tant que techniciens de la matière pour expliquer la technicité de ces outils d'expression. Donc pour la peinture à l'huile, les médiums, les couleurs, ainsi que l'acrylique. À côté de ça, nous avons également des ateliers, des workshops de gouache ou d'aquarelle, également dans les pastels, dans la gravure également, qui est une peinture à l'huile également, mais d'une huile cuite, une masse d'huile cuite et non pas d'huile crue. Donc tous ces workshops par technique sont proposés dans les écoles de beaux-arts, mais aussi dans les écoles d'art visuel, où nous développons aussi des workshops dans le domaine des arts graphiques, avec des marqueurs, tout un ensemble d'encre également pour la calligraphie ou l'aérographe, hein, le spray, le street art. On est un peu présent dans tous ces outils d'expression, et bien sûr dans les écoles d'art visuel, donc d'écoles de mode, école d'illustration, et école de design, et école de beaux-arts. Voilà, tac. Voilà, ça c'est les petits jouets.
Ouais, ouais.
Voilà, les petits jouets. Mettez ça sur table, comme ça vous pourrez essayer ça après.
Tu te mets où
Là où tu te mets.
Capoute Mortou, il y en a
là. J'en découvre.
Ouais, mais j'adore le nom de Capoute Mortou. Et c'est tubeur,
encore rouge transparent là aussi. Ah. Ça c'est les médiums, ça. Voilà. Les additifs pour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en intro. Je vous laisse en main de Benoît Piau. Benoît donc travaille pour Le Franc-Bourgeois depuis pas mal d'années. Donc ce sont des artistes techniciens.
Des boîtes sur table qui sont un peu dans l'historique de la maison Le Franc, mais je vais y revenir. Et puis après, si vous dans vos palettes vous avez des couleurs spécifiques, on pourra après. On a une boîte en réserve où je crois qu'on a à peu près toute la gamme.
Ouais, on a pour toutes les
donc
couleurs, ouais.
On va pouvoir un peu tester des choses un peu particulières. Moi je suis Benoît Piau, je suis artiste plasticien comme vous, diplômé des beaux-arts comme vous. Donc les pigments, quatre origines à la base, hein, origine minérale, origine végétale, origine animale et des chimies dites naturelles, c'est-à-dire toutes les oxydations, hein, principalement, oxyde de fer, que ce soit les blancs de zinc, etc. Sur les toits de Paris, ça ferait des très beaux blancs de zinc. Donc là, vous avez des boîtes sur les tables, des boîtes de 12 tubes qui sont un peu l'histoire et la mémoire de la maison Le Franc, avec un jaune de Naples, le jaune de Naples qui était une des couleurs fétiches de Pissarro, hein, puis qui correspond bien aussi à l'idée de la liberté de Le Franc, de pouvoir faire voyager ses peintures et voyager ses peintures facilement avec l'invention du tube, hein, et avoir pensé à mettre de la peinture dans les tubes. Et ça, ça a contribué à toute la révolution impressionniste. Ensuite, vous avez un lac de Garance, donc ça, on en a parlé par rapport à Chardin. Vous avez un bleu espace dans ces boîtes-là, hein, qu'a utilisé Raoul Dufy pour peindre le génie électrique. Donc, c'est un petit peu toute l'histoire de la maison là, qui se déroule sur ces 12 couleurs. Et on va pouvoir tester ces couleurs-là.
Comédia dell'arte, citron, cordial belvoir, fleur de sureau, verveine, gin Hendrix, concombre, tonic fever tree.
16 novembre 2017, soirée spéciale Le Franc-Bourgeois à l'École des Beaux-Arts de Paris. La marque séculaire organise workshops et performances d'artistes pour présenter sa nouvelle gamme de produits. Au milieu d'une foule festive qui attend l'arrivée du street artiste John Wan, on s'arrête un moment à côté de Thierry Collot, directeur général de la marque.
Et les huiles, il les connaît sur le bout des doigts.
Il y a des nouvelles huiles francs parce que aujourd'hui, on voit d'ailleurs ce soir que l'huile n'est pas un médium pour l'expression artistique, pas seulement du passé, il peut l'être pour demain. L'huile, c'est des caractéristiques qui sont différentes par rapport à l'acrylique, par exemple, qui a pris beaucoup durant les dernières décennies. Mais en fait, l'huile, il faut la renouveler. On a travaillé justement au niveau de Lefranc Bourgeois pour rendre déjà tout l'univers des additifs, tout ce qui va permettre de nourrir le film d'huile, le film pictural, de l'adapter au désir de l'artiste, que l'artiste est attaché au cadmium. Mais on est capable de lui proposer maintenant un produit et on lui fait le pari qu'il ne puisse pas trouver la différence entre le cadmium et le cadmium sans cadmium.
De Janwan. Un des murs de l'école des beaux-arts se retrouve tout à coup peinturluré de multiples couleurs. L'artiste va vite, les couleurs sont belles. À peine terminé, on s'imagine que la toile va valoir très cher. Janwan, célèbre street artiste américain, semble avoir particulièrement apprécié la gourmandise des huiles Lefranc Bourgeois. Qu'en aurait dit Chardin ? Ça, on ne sait pas trop. Mais voici ce qu'en dit John Wayne 300 ans plus tard.
Mais il faut avoir quelque chose à dire, c'est ça l'important. Il faut vraiment exprimer, utiliser votre créativité. Et aussi, imagination, beaucoup d'imagination. Ça m'a pris longtemps à arriver à l'huile parce que j'étais trop concentré sur les autres mediums. Mais un jour, j'avais ce moment spécial que j'ai dit, voilà, j'ai l'idée. Et à partir de ce que j'avais l'idée, boum, ça a parti. J'aime bien écouter que l'huile, il y a aussi l'histoire de l'huile, tu vois, qui sont un truc très noble, très ancien.
Justement, les huiles Lefranc Bourgeois, elles sont très anciennes.
Oui, c'est 300 ans et c'est français, ça c'est bien. Et moi, je défends tout ce qui est bien en France. Comme, tu vois, c'est passé de génération à génération. 300 ans, c'est longtemps. Il faut réfléchir à ça. Comment une chose dure le temps? Je pense parce que c'est de bonnes choses. Mais qu'est-ce que c'est bien avec les francs bourgeois? C'est vraiment qui? C'est pas... Comment ils durent tellement longtemps? C'est parce qu'ils font des choses pour les artistes. Ils font pas... Ils ont une relation avec les artistes. Ça, c'est évident, l'événement que nous sommes aujourd'hui. Et j'espère qu'il va me donner beaucoup de cadeaux après.
J'espère pour toi aussi.
Oui, je regarde cette boîte-là, où elle est tellement bonne. Tu vas voir. Je veux une boîte.
Une boîte?
Oui, je veux une boîte de peinture. Tu veux entrer avec des choses.
Merci, Janwan.
Merci à vous, merci à vous.
Et voilà, notre petit reportage au cœur de l'histoire et des secrets des huiles Lefranc Bourgeois se termine ici. J'espère que vous regarderez maintenant avec un œil légèrement différent la peinture à l'huile. N'hésitez pas à poser des questions aux artistes qui aiment parler de leurs techniques artistiques. Pour avoir la gentillesse de nous faire revivre l'histoire, plus que centenaire des couleurs Lefranc Bourgeois, maison historique qui a beaucoup plus compté qu'on ne le pense dans le quotidien et la pratique des artistes, je tiens à remercier Marcel Lehmann-Lefranc, Vincent Ledru, Grégory Brossard et Pierre Ball qui ont guidé mes pas et qui, pour ce dernier d'entre eux, a même prêté sa voix pour la lecture des correspondances d'artistes. C'était Julie Chaise-Martin dans l'émission Secrets de Fabrique et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une visite très spéciale ou très privée d'un autre lieu artistique.
Peindre, c'est se perdre dans un monde de couleurs et faire corps avec la matière jusqu'à ce que l'une et l'autre s'expriment dans une poésie silencieuse. Dès l'origine, le franc-bourgeois a l'intuition de ce rapport charnel de l'homme à la peinture. À la fois au service de l'artiste et à l'avant-garde de l'art, le franc-bourgeois invente son métier. C'est cette quête de la matière idéale qui permet à le franc-bourgeois de fournir depuis plus de 300 ans plus qu'une couleur, une matière qui devient émotion, dont la finesse et l'élégance permettent à tous les passionnés d'enrichir leur pratique de la peinture.
C'était Secret de Fabrique sur Art District, une émission à retrouver les lundis, mercredis et vendredis à 16h. Bonne fin d'après-midi sur Art District, à l'écoute de notre programmation jazz.